En mode slow, c'est le podcast pour explorer et améliorer ta relation aux vêtements. Je suis Aline, fondatrice de Bichic Diétique. J'accompagne les femmes dans leur transition vers une garde-robe éco-responsable alignée avec elles-mêmes. En mode slow, ce sont des actions concrètes et des pistes de réflexion pour plus de créativité, de joie et de conscience dans ta garde-robe. Bienvenue! Hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode hors série. Il s'agit de l'interview de Chéra, la fondatrice d'Atelier FH, que nous avons enregistrée fin janvier. Je te souhaite une bonne écoute et une bonne découverte. Alors, bienvenue à tous, bienvenue Chéra.
Merci, bonjour Aline.
Aujourd'hui, une nouvelle interview qui s'inscrit dans une série que j'ai commencée au printemps l'année passée. En fait, mon idée, c'était d'interviewer des acteurs de la mode éco-responsable en Suisse. Donc, il y a eu deux marques qui étaient Camille Rosis et puis Dress Is More. Il y a eu aussi la boutique en ligne Closer. Et puis, aujourd'hui, donc, Chéra qui a créé Atelier FH, que je te laisse peut-être déjà te présenter, expliquer un peu ton parcours.
Oui, merci Aline. Alors, donc, comme tu as dit, je m'appelle Chéra Lessueur et je suis donc la fondatrice d'Atelier FH, le soulier engagé, qui est donc une marque suisse, jeune, puisque ça fait presque un an et demi maintenant. Et mon parcours, en fait, avant Atelier FH, je n'étais pas forcément dans ce domaine-là, parce que j'étais DRH. Dans des grosses boîtes, en fait. Et j'ai décidé de monter Atelier FH il y a un an, suite à, je dirais, une transition, comme on dit. Donc, moi, j'ai travaillé à Dubaï, à Paris et en Suisse. Donc, mon dernier poste était en Suisse. Ça fait 8 ans que je vis en Suisse, en fait. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, maintenant je sais, mais sur le moment, une perte de sens. Je ne me sentais plus alignée dans mon travail, bien que j'aimais beaucoup mon job de ressources humaines. Et donc, quand je suis partie, j'ai décidé en fait vraiment de faire un travail d'introspection, vraiment de comprendre pourquoi j'étais plus du tout alignée. Et donc, je me suis rendue compte aussi de ce qui était important pour moi et de ce qui m'animait. Donc, j'ai eu une période, on va dire, un an avant de fonder Atelier FH où je me suis formée à la durabilité. Pour moi, les questions de diversité et inclusion sont hyper importantes. Je les portais déjà en entreprise. J'ai fondé aussi une association et je me suis rendu compte en fait que tout était lié, la planète, la diversité, l'économie, la prospérité, et j'avais vraiment envie d'avoir mon propre projet et de faire quelque chose qui était un peu plus grand que moi et d'avoir un impact. Et c'est vrai que j'avais plusieurs idées sur le sujet, mais c'est vrai qu'il y avait un sujet qui me portait, qui était la mode, la seconde haine, puisque c'est quelque chose que personnellement j'aimais beaucoup, que j'ai toujours fait. Et après, je me suis rendu compte que sur la partie chaussures, il y avait, je dirais, un challenge, et j'avais envie de trouver une solution pour réussir à vendre des chaussures de seconde haine. Voilà.
Ok, merci. Effectivement, c'est vrai que le fait que tu sois spécialisée dans la chaussure, je trouve hyper intéressant parce que c'est quand même assez entré dans les habitudes, le seconde main niveau vêtements. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être encore un frein des fois pour les chaussures. On a l'impression que... Et il y a aussi moins de... Enfin, dans les friperies et tout ça, il y a quand même moins d'offres de chaussures que de vêtements. Ouais. Donc, hyper intéressant. Et du coup, est-ce que tu veux expliquer un peu plus comment ça fonctionne, Atelier FH, comment fonctionnent les chaussures et tout?
Oui, donc peut-être pour préciser, c'est vrai que je n'ai pas précisé, j'ai dit que c'était des chaussures, mais donc Atelier FH, ce sont des chaussures qui sont de seconde main. Donc on vend des chaussures seconde main qui sont restaurées par des artisans cordonniers en Suisse. À la différence d'un dépôt vente ou d'une grande plateforme comme Vestiaire Collective ou je sais pas moi Vinted, Atelier FH, ce n'est pas une plateforme. L'idée, c'est vraiment d'avoir la même expérience que si on achetait dans un multimarque de chaussures, mais là on se retrouve dans un magasin en ligne de seconde haine. Et la manière dont ça fonctionne, c'est que ça veut dire qu'en fait je fais ce qu'on appelle du collectionning, donc je crée mes propres collections avec de la seconde haine. Donc ça veut dire que je vais sélectionner des chaussures seconde haine que les particuliers en fait vont me donner ou me vendre mais aussi parce que j'adore chiner. Alors, j'ai moins le temps maintenant. Au fur et à mesure, bah, si je vois une paire de chaussures qui me plaît et qui n'est pas forcément mise en valeur et que je me dis, ah bah tiens, elle est sympa et on peut faire quelque chose avec, bah, je vais la récupérer et voilà. Et ensuite, en fait, elles sont. Donc, il y a vraiment ce côté curating, je dirais, la sélection et après la restauration. Et donc, la restauration, ça va d'abord la désinfection, parce que ça, c'est un vrai frein, en fait, à l'achat de seconde haine. Donc, la désinfection avec une machine à vapeur, mais aussi après un travail manuel, vraiment pour être sûr que tout est nickel à l'intérieur. Et aussi, bah, tout simplement, nettoyer la chaussure, c'est-à-dire la cirer, la bichonner, et jusqu'à réparer, ajouter une semelle de protection si besoin. Donc, vraiment, cette idée qu'elle est vraiment comme neuf, vraiment enlever ces barrières. Parce que le second N, c'est vrai que maintenant, c'est plus tendance. Il y a encore, quand moi j'ai commencé à travailler sur le projet il y a 2 ans et demi et que j'avais fait une étude. Ça commençait en fait, les gens commençaient à acheter, ceux qui n'achetaient pas en tout cas commençaient à acheter la seconde haine de vêtements. Mais alors les chaussures, c'était vraiment un gros, gros blocage.
Et je trouve intéressant, en fait, ben, ouais, t'as vraiment cette étape en plus que tu apportes qui est de alors, il y a, oui, le côté nettoyage et tout, mais aussi restauration. Et du coup, tu mets aussi en valeur, ben, le travail de ces artisans-là qui, enfin, moi, je suis toujours étonnée quand on apporte une chaussure, on a l'impression que, enfin, je pense qu'il y a quelques années, je considérais qu'elle était à jeter. Et puis, en fait, ils peuvent quand même faire un sacré travail de restauration où elle apparaît vraiment comme neuve, en
Oui,
fait.
tout à fait. Donc oui, c'est ça en fait aussi je dirais la mission d'Atelier FH, c'est pas juste faire de la seconde haine pour faire de la seconde haine, il y a vraiment une vision et une mission derrière de valorisation de la chaussure, mais aussi du métier de cordonnier qu'on a délaissé. Et aussi, bah, c'est vrai que quand on achète des chaussures pas forcément de super qualité, parce que bah, les chaussures, c'est comme les vêtements, ça a suivi la même tendance, beaucoup de production, beaucoup de consommation, de moins en moins de bonne qualité. Bah, quand la chaussure est moins bonne qualité, bah, elle est plus difficile pour le cordonnier aussi à réparer. Et puis, bah, forcément, quand tu achètes une chaussure qu'on a peut-être payée entre 180 et 150, bah, on n'est pas forcément prêt à remettre 80 francs pour faire réparer sa chaussure. Donc, voilà, la jeter. Et j'ai fait partie pas de ces gens qui jetaient les chaussures, mais en tout cas de plus porter une chaussure parce que je trouve, bah, parce que voilà, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais pas forcément d'avoir le réflexe d'aller chez le cordonnier. Ouais. Et donc, ça, pour moi, c'est aussi la vraie mission de revaloriser le métier de cordonnier et du coup de redonner conscience aux gens que. Ok, bah peut-être qu'ils peuvent ne même pas acheter des chaussures en fait, ou seconde haine ou neuve, mais qu'ils disent, ah bah tiens, avec mes chaussures, je peux leur donner une seconde vie aussi juste en allant chez le cordonnier, bien qu'on fasse ça. Mais c'est une question aussi d'éducation, enfin, c'est aussi la mission un peu d'Atelier FH, c'est d'éduquer aussi et de montrer tout ce qu'on peut faire en fait.
Et je trouve intéressant aussi ce que tu disais de que voilà, on a l'impression que si on n'a pas payé cher une chaussure, ça vaut pas forcément la peine de remettre le même prix pour la réparer. Mais en fait, enfin, je me dis, si on réfléchit autrement, on a de nouveau une enfin on a une nouvelle chaussure neuve, donc oui, il y a le côté, il n'y a pas le côté nouveauté dont on a eu l'habitude, ben, avec la fast fashion, de toujours renouveler et tout ça. Mais finalement, est-ce que d'avoir une chaussure neuve, peut-être même avec une semelle un peu plus solide, un peu plus épaisse, pour le même prix, on s'en fout finalement de la valeur de la chaussure à la
Ah
base. Ce qui
non,
compte, c'est que
oui.
effectivement, je pense que les gens et moi, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on avait en fait, cette échelle de se dire, ah ben, si je n'ai pas payé cher, ça ne vaut pas la peine de mettre un prix identique ou qui se rapproche pour quelque chose qui n'est pas neuf. Et je pense qu'on peut faire ce changement de prendre juste, ben, qu'est-ce qu'on a à la fin et pas réfléchir à quelle était la valeur du
Ouais,
début
bah
qui,
comme
en
avec
plus.
un vêtement en fait. Je pense que ça peut-être sur le vêtement, ça commence à changer, mais on aurait la même réflexion sur un vêtement de j'ai un pull déchiré. Et donc pour aller le faire réparer, bah forcément ça prend plus de temps, donc ça a certains coûts. Bah, si tu dois mettre 30 francs pour faire réparer quelque chose et qu'à 30 francs, tu peux avoir le même switch chez H&M. Donc voilà, donc aujourd'hui, il y a peut-être ce changement de dire bah, éviter d'avoir quelque chose de nouveau, encore un article en plus, etc. J'essaye de faire durer le plus longtemps ce que j'ai. Bon, après, il y a tout l'aspect customisation qui en, voilà, il y a encore des nouvelles choses qui sont possibles pour avoir des nouveautés. Mais donc ça fait partie vraiment la réparabilité, quoi. C'est pour moi un vrai sujet de, dans la durabilité, comme les machines à laver, je ne sais pas moi. À café, ouais.
Oui, et puis aussi où on met la valeur, enfin qu'est-ce qu'on considère comme de valeur, parce qu'il y a la valeur de la marchandise de base qui est aussi un peu, enfin on a aussi un peu perdu le sens de cette valeur, parce
Ouais.
que voilà, quand on achète quelque chose 5 francs, on ne se rend pas compte
Oui.
que ça vaut, voilà. Mais, et puis après la valeur de quelqu'un qui a retravaillé notre pièce, et donc
Oui,
ouais.
c'est ça, c'est aussi valoriser ce qui est hyper important, le travail de la personne, de l'artisan, que ce soit un couturier ou un cordonnier. Oui, ça, c'est hyper important. C'est pour ça que je trouve que c'est sympa, là, je saute sur un autre sujet, quand toute cette tendance du do-it-yourself où tu te rends compte, bah, quand toi, tu fais du temps passé, et là, ça te donne la valeur des choses. Pour avoir fait, je crois que tu l'avais fait toi, j'avais fait un atelier sandales. J'avais pris des heures en fait, donc j'étais hyper contente des résultats. Mais je m'étais du coup, je me souviens, dit si je vends cette paire de sandales par exemple, je pourrais pas la vendre parce que, à un taux horaire même le plus bas possible, personne voudrait l'acheter versus peut-être la même dans une grande enseigne de distribution ou pour le même prix, tu serais dans des grandes marques de luxe. Donc voilà. Et ça donne vraiment la valeur des choses et ça permet aux gens de se rendre compte, quoi, en fait. C'est un peu le côté empathique, je dirais.
Ouais, je rebondis là-dessus. C'est vrai que moi j'encourage beaucoup le do-it-yourself, pas dans l'idée que il faut absolument tout réparer soi-même. Et il y a des gens qui c'est pas leur truc. Et puis
Oui,
le
ça prend
truc
du
c'est pas
temps.
dire passer vos week-ends à coudre et à réparer. Par contre, à une occasion ou une autre d'essayer de faire un atelier, en fait, ouais, ça redonne la valeur. Et puis après, on est peut-être aussi plus enclin à confier ça à quelqu'un pour le
Ah
faire,
oui,
et
carrément. Oui.
on apprécie plus le travail qui est fait aussi.
Ben moi, ça a été ma transition parce que je n'ai pas toujours été comme ça. J'ai toujours aimé la mode, j'ai toujours aimé le second hand, mais j'ai eu aussi ma phase de grande consommatrice, etc. Et du coup, après de m'être rendu compte en fait, de tous les impacts de la mode, bah, j'ai changé au fur et à mesure. Et du coup, j'ai aussi changé sur ce côté-là. Et qu'une fois qu'on le fait soi-même, on se dit ah, je vais tout faire moi-même, et puis je vais faire ci, et puis je vais faire ça. Mais bon, en fait, ce n'est pas possible. Mais du coup, bah, effectivement, bah, j'ai moins d'appréhension maintenant à donner et à payer le prix qu'il faut payer pour quelque chose. Parce que là, en fait, je me dis la personne le fait à ma place. En fait, il y a ce côté psychologique, la personne peut faire à ma place, je pourrais le faire, mais bon, du coup, je suis prête à payer pour que quelqu'un le fasse à ma place, parce que je sais que c'est possible, et du coup, je sais combien ça vaut, comme tout.
Ce que je voulais te demander aussi, c'est est-ce que tu as l'impression que dans tes clientes, sans vouloir mettre les gens dans les cases, mais il peut y avoir un peu trois raisons de venir, c'est soit c'est des beaux modèles de marque, et puis du coup à des prix attrayants et tout ça, ou ça peut être j'adore le second hand, mais sans forcément réfléchir au côté éco-responsable, ou alors le côté vraiment je veux acheter éco-responsable, et du coup j'arrive chez toi.
Oui, bah, en fait, oui, non, je pense qu'il y a, comme tu dis, plusieurs catégories. Je pense pas qu'il y ait des personnes qui. Enfin, s'il y a enfin, les personnes qui vont être à fond dans le second hand, en cas, moi qui l'étais déjà, en fait, moi, la chaussure, en fait, je me posais pas vraiment de questions. C'est juste que je me suis rendu compte à un moment donné que c'était un blocage. Et du coup, c'est en faisant mon étude que je me suis rendu compte que bah, les gens, l'hygiène, c'était un frein, alors que moi j'aurais bah, en fait ça me gênait pas et puis limite je faisais moi-même voilà je nettoyais moi-même ou j'allais chez le cordonnier s'il y avait un truc ça me dérangeait pas d'acheter quelque chose qui voilà qui soit pas en totalement bon état. Et donc c'est vrai que je pense que déjà j'ai des clientes qui au début étaient plutôt des clientes qui n'étaient pas forcément des clientes de second hand ou qui en allant en tout cas dans des quand elles voyaient de la seconde haine de bonne qualité sélectionnée, bah, je te disais, ah oui, finalement, c'est pas si nul que ça. Donc il y a le côté, et puis il y a le côté aussi, le feedback que j'ai eu, c'est vraiment le côté, bah, il y a une sélection en fait. Il n'y a pas 10 000 modèles où on est perdu, il y a une sélection, comme une espèce d'identité, et ça a l'air comme neuf. Donc vraiment, cette phrase revient hyper souvent. Du coup, bah, ça donne cette conscience de se dire, bah, c'est OK, quoi. C'est comme une chaussure neuve. Donc, il y a vraiment cet aspect-là. Et du coup, il y a l'aspect éco-responsabilité, pas vraiment, en fait. C'est plutôt, tant mieux, en plus, j'aurais fait du bien à la planète. Et en plus, ça me coûte moins cher. Et après, il y a aussi des personnes qui vont plutôt rechercher des chaussures de marque en se disant, bah, voilà, du coup, je peux m'offrir une chaussure de marque que je n'aurais pas pu m'offrir en temps normal. Et donc, je n'irais pas acheter une chaussure, par exemple, Navy Boot, si je prends une marque suisse, mais qui irait plutôt acheter de la Louboutin. Et puis après, il y a des personnes qui, voilà, c'est plus une question de modèle, c'est la bonne taille, donc c'est OK. Ouais, ouais. Et donc, du coup, des gens qui sont conscients quand même. Mais je dirais que la majorité, c'est pas l'éco-responsabilité, pas la première motivation, honnêtement. Quoi. Mais j'ai l'impression que c'est pas forcément que pour Atelier FH, c'est pour aussi beaucoup de marques éco-responsables. C'est plutôt le après, tant mieux. En fait, l'offre est là. Et en fait, c'est ça, en fait. Je trouve que c'est qu'il faut pouvoir offrir cette alternative pour que les gens puissent acheter autrement. Parce que c'est aux marques, et particulièrement plus aux grandes marques, de faire, dont c'est la responsabilité vraiment de faire ce changement. Et quand avant, il y avait des marques éco-responsables, et honnêtement, elles n'étaient pas vraiment top, quoi. Bah, c'est sûr, ça ne te donne pas envie d'acheter. T'as beau avoir envie d'acheter éco-responsable. Voilà, et à l'époque, quand il y avait plutôt que des fripes, des broquilles, encore une fois, moi, ça ne me dérange pas, je peux comprendre que ça dérange les gens, donc bah, forcément, les gens vont... Pour moi, il faut que ce soit... En fait, ça fait partie des critères de la durabilité, s'il faut que ce soit accessible, donc facile d'un point de vue offre et accessible d'un point de vue prix aussi.
Et ouais, et c'est vrai que je te rejoins sur le fait que, en fait, on ne peut pas juste dire aux gens... acheter éco-responsable parce que ben, la mode est une catastrophe, voilà, sans avoir d'alternative intéressante. Enfin, la mode, il y a quand même tout ce côté, c'est des choses belles, c'est des objets qu'on achète quand même parce qu'on les trouve belles, parce que, enfin, voilà, tout ce côté esthétique. Donc, juste dire la mode est une catastrophe, donc renoncer à tout le beau que vous voulez pour... je trouve ça un peu dur, donc
oui, puis c'est ça vis-à-vis d'un Zara qui va être capable de faire des choses qui vont être belles puisqu'ils vont copier des grands créateurs et tout ça. C'est sûr que c'est compliqué pour le consommateur, quoi.
Et puis ouais, je pense que l'intérêt aussi d'Atelier FH, comme tu disais, c'est que finalement tu amènes aussi ta patte dans la sélection, et puis fait finalement une présélection pour les clientes, donc voilà, t'apportes aussi le plus d'aller chercher les pépites et tout ça, donc
oui, voilà. Après, avec peut-être un style, j'essaye de pas avoir d'être trop dans un certain style. Vraiment, là, les critères, c'est la qualité des chaussures, ça c'est clair, pour qu'elles puissent durer le plus longtemps possible. Et en fait, moi, mon alternative, c'est de dire, quand je veux que ce soit accessible, c'est que je me dis, entre une chaussure de mauvaise qualité que tu vas payer 80 francs ou 100, est-ce que tu peux pas te payer pour le même prix une chaussure de meilleure qualité, qui en plus déjà peut-être a déjà son talon réparé, sa semelle de protection, et que tu vas pouvoir redonner à un cordonnier encore plus tard. Et du coup, bah, au moins, il n'y a pas cet impact négatif de la pollution. Et puis la deuxième chose pour moi, c'est le deuxième critère de comment je choisis les chaussures, c'est vraiment... le style intemporel, donc pas trop tendance, voilà, bien en fait maintenant il n'y a plus vraiment de tendance en soi, c'est plus chacun son style et qu'il y a plein de choses différentes, donc moi il y aura peut-être une certaine touche en fait, ça, je pense que oui, et du coup bah, c'est le but aussi, c'est de se dire bah, tiens, je sais que chez Atelier FH, je sais qu'a priori je trouverai ce type de chaussures. Mais comme moi, quand je vais dans des magasins secondaires, je sais que si je vais là, je sais quel style je vais trouver versus un autre qui aura un style complètement différent. En fait, c'est un peu d'avoir les mêmes codes, je dirais, qu'une marque neuve, mais dans la secondaire.
Oui. Et puis, du coup, tu as des périodes précise quand tu mets des nouvelles chaussures, ou bien c'est un peu en fonction de ce que tu...
Oui, alors s'il y a des périodes... Oui, c'est un peu en fonction du roulement. Mais oui, il y a des périodes, c'est-à-dire ben là, par exemple, si on prend la période d'automne-hiver, ben clairement, ben, en septembre, mi-septembre, c'est là où je vais commencer à mettre des nouvelles chaussures de cette saison-là. Et puis, je vais en remettre mi-octobre, peut-être que j'en mettrai un tout petit peu encore en novembre. Et après, je vais arrêter, en fait. Et là, on est fin janvier, donc a priori, les chaussures plutôt printemps, été, elles ont commencé pareil, avril, puis de nouveau encore une deuxième partie en mai, peut-être une troisième partie fin juin. Et après, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des paires par-ci par-là qui vont arriver, mais pour l'instant, c'est le rythme aujourd'hui, en étant une jeune marque. C'est vrai que parfois, c'est assez. Ça peut être frustrant pour les clients parce que, en fait, on veut toujours de la nouveauté et qu'il n'y a pas tout le temps de la nouveauté. Donc, c'est vrai que la seconde hand, dans ce cas-là, ça fait partie de ce qu'on appelle la mode slow, quoi, le slow fashion, parce que si tu ne trouves pas aujourd'hui ce que tu voulais, soit tu attends, bah, soit tu vas l'acheter en neuf, en fait, si vraiment tu n'en as pas besoin.
Non, c'est sûr, ça demande de repenser un peu la manière dont on a d'acheter. C'est clair. Et puis, je crois qu'on n'a pas précisé, enfin oui, tu l'as peut-être évoqué au début, donc c'est un shop en ligne. Et puis, sauf erreur, tu fais aussi des pop-up pour les vendre en présentiel, je ne sais pas si on dit ça comme ça, enfin en boutique.
Oui, en physique. Bah, en fait,
En
oui, donc
physique, voilà.
vraiment, l'idée, c'était de faire un shop en ligne que j'avais lancé en novembre 2020. Novembre 2020, mais j'avais quand même fait un mini pop-up, etc., à la même période, aussi pour montrer en fait aux personnes ce que ça voulait dire, parce que je pense que comme il y a ce frein-là, en ligne, même si ça peut avoir l'air joli, il y aura encore le frein, donc c'est important. Et du coup, ça me permettait aussi d'avoir un retour en live des clientes, ça c'est hyper important. Et après, bah, malheureusement, il y a eu toute la période où tout était fermé, donc voilà, mais j'avais refait un pop-up avec une autre marque éthique en avril, aussi à Zurich. Et là, j'essaie effectivement d'en faire régulièrement, ou en tout cas de trouver des manières de faire un peu, enfin de mixer les deux. Donc par exemple, à Zurich, j'ai un corner que j'utilise plus comme un showroom, donc toutes les chaussures ne sont pas exposées, mais ça permet aux gens de voir et puis aussi de prendre rendez-vous si elles préfèrent essayer. Donc ça, c'est à Zurich. Et depuis fin septembre, je suis dans une boutique à Paris, donc une boutique qui est de vêtements, et du coup, ça permet d'avoir un corner chaussures, donc ça donne aussi une visibilité à Atelier FH. Donc vraiment, pour moi, c'est mixer les deux, je trouve ça plutôt chouette. Et donc, voilà, sur 2022, ce sera le même principe d'avoir les deux. Ouais.
Oui, est-ce que, bon, on en avait un peu parlé aussi, mais est-ce qu'il y a des contraintes ou des challenges spécifiques que tu as rencontrés depuis le début de ta marque, que ce soit lié au fait que tu veux le plus d'éco-responsabilité possible ou au monde de la seconde main, enfin voilà, qu'est-ce que...
Non, mes challenges, je dirais que ça a été plutôt au début de me dire, bah, voilà, j'ai lancé quelque chose avec vraiment cette volonté d'avoir un impact positif, enfin positif, en tout cas pas négatif. Mais du coup, pour moi, il fallait que ce soit global, en fait. C'était pas juste le produit en lui-même. Donc ça voulait dire que si c'était en ligne, du coup, bah, ça veut dire envoyer des colis. Donc à partir de là, on peut se dire, ah bah oui, bah alors du coup, ça crée de la pollution, effectivement, c'est pas complètement neutre. Mais du coup, ça voulait dire les boîtes, qu'est-ce que j'allais faire avec les boîtes, comment il fallait que je trouve des fournisseurs de boîtes de chaussures recyclées, et je voulais que ce soit en Suisse. Donc ça, par exemple, j'ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé un fournisseur de carton de la taille d'une boîte de chaussures en Suisse. Donc voilà, je voulais. Et puis en fait, je voulais vraiment ce que j'avais dit au début, donner la même expérience que du neuf. Donc du coup, avoir des jolis papiers de soie aussi. Donc ça, j'ai pu trouver, bon, pas en Suisse, mais des papiers de soie recyclés. Et puis je voulais faire des pochettes. Voilà, alors qu'en général, que je donne quand c'est en magasin, mais en ligne, en fait. je demande aux gens de participer en fait un peu à la pochette chaussure pour pas avoir en fait à donner quelque chose dont les gens vont peut-être pas se servir. Il faut vraiment cliquer et puis je mets vraiment le prix le plus bas possible. Honnêtement, je ne fais pas de l'argent sur la pochette chaussure. Je trouve que les fournisseurs, c'est ça, c'est un challenge en fait. Faut pas aller à la seconde main, mais quand tu veux faire être en totale éco-responsabilité.
Si je peux réagir là-dessus. C'est vrai que je pense, ben, en tant que consommateur, des fois, on fait aussi des raccourcis assez rapides en disant « Ah oui, mais bon, pourquoi ça ne vient pas de Suisse ?» Mais en fait, on ne se rend pas compte qu'il y a, il y a tellement de choses qui n'existent plus ou qui ont peut-être même jamais existé. Parce que ça a été délocalisé. Donc voilà, ce n'est pas si simple, en fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer, mais des fois, ouais, il ne faut pas non plus condamner les...
c'est sans condamner, puis c'est aussi une question aussi économique, en fait, il faut être réaliste, la Suisse fait partie de l'espace Schengen, donc en termes de commerce, c'est pas forcément la même chose d'acheter localement que d'acheter en dehors des frontières, enfin même les pochettes, hein, je les achète en France, c'est en coton bio, j'imagine pas que tout est fabriqué en France, que le coton bio il vient pas de France, hein. Donc c'est vraiment essayer de faire le maximum de ce qu'on peut faire, et puis effectivement moi je condamne pas du tout, parce que en fait après il faut qu'il y ait une espèce de force globale pour aider les gens à changer ou les gens à se réimplanter.
Je trouve aussi intéressant que typiquement que tu proposes les pochettes que la personne puisse choisir. Est-ce que en fait, il y a le côté offrir un service qualitatif, tout bien emballé, qui est intéressant, qui fait plaisir. Mais en même temps, si de toute façon la personne, elle va rien faire de cette pochette, c'est aussi un peu dommage. Et je trouve super intéressant ton idée de dire, si pour vous ça apporte quelque chose, choisissez de l'avoir, que la personne doive contribuer, ça permet aussi de voir la valeur.
Oui, ça c'est hyper important en fait. Effectivement, sur ça, je vais un peu à l'encontre des tendances, enfin en tout cas des grosses entreprises e-commerce qui vont peut-être, offrir un tote bag par exemple, qui vont avoir une livraison gratuite, qui vont offrir des retours gratuits. Et alors oui, ça permet d'acheter plus facilement en ligne. C'est sûr que peut-être que les gens vont se poser la question avant d'acheter parce qu'ils disaient si je me trompe de taille, voilà. Bon, déjà pour une petite entreprise, c'est difficilement viable. Mais de deux, il y a une vraie démarche consciente en fait de que les gens se rendent compte que la pochette, ils en ont besoin ou pas besoin. Je vais pas la faire très chère. Elle coûterait beaucoup plus cher si tu l'achetais dans un commerce. Mais c'est pour en fait, en gros, c'est au prix de revient. Et tu as une jolie pochette, et quand il s'agit de la livraison, la livraison elle va pas être gratuite à part à partir vraiment d'un certain gros montant, et parce que en fait ça crée beaucoup d'aller-retour, et donc c'est pas forcément très bon pour la planète, et que les grandes entreprises qui font ça, c'est compliqué la gestion de retour, et les produits sont pas forcément revendus après, alors que c'est pas du tout le principe de la second hand, c'est l'objet est unique. S'il part, que la personne me la renvoie, je vais vraiment la revendre après, en fait.
Oui. Et c'est vrai que ces livraisons gratuites et tout ça, il y a un côté, au début, peut-être noble de faciliter les choses. Mais en fait, on se rend bien compte qu'en fait, ça pousse juste en se disant « Mais de toute façon, ça ne me coûte rien à
commander. » Oui, tu vas prendre trois tailles, en fait. Et puis, tu verras bien lequel te va. Et je pense que c'est peut-être aussi le principe. Mais ça, on revient à ce dont on parlait avant, c'est la valeur, en fait. Oui. Ce travail, c'est toute la valeur de faire le paquet, l'envoyer, les gens de la poste ou de n'importe quel transporteur qui vont travailler. Tout ça ne peut pas être gratuit, en fait. C'est comme les livraisons express qui ne coûtent rien. Il y a des gens qui, justement, livrent, en fait. Ça ne peut pas être gratuit.
Oui. Et c'est vrai que moi, ça m'hallucine toujours de me dire, je commande quelque chose à 8 heures le soir et selon où je l'ai le lendemain matin, je me dis, mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a travaillé pendant la nuit. C'est pas possible.
Oui, oui.
Et en fait, on oublie parce qu'on trouve ça tellement pratique, mais...
Oui, oui. Oui, moi j'avais un jour un retour, parce que j'essaie de demander des retours assez réguliers, ah bah là, bah, je pensais avoir les chaussures le lendemain, parce que par exemple j'ai commandé ça au même moment et j'ai eu le lendemain. Je lui ai dit, bah, moi c'est un tarif standard de la poste, donc en fait c'est 2 jours. Après on peut toujours payer plus cher pour que ce soit encore plus rapide. Voilà, donc c'est ça aussi quand on dit livraison express, en plus gratuit, gratuit. Voilà, je vais un peu à l'encontre de tout ça. C'est sûr que ça fait partie des challenges pour moi, mais j'essaie de rester d'être assez droite dans mes bottes sur tous les principes de durabilité. Après, si je devais être complètement droite, je ne créerais pas d'entreprise, parce que finalement, à chaque fois qu'on fait quelque chose, il y a un impact, c'est sûr. Je ne peux pas être neutre, en fait.
Non. Non, mais après, si on n'a aucune alternative à proposer, on ne peut pas non plus évoluer vers du positif. Donc, ouais, ben merci en tout cas pour tout ce que tu as partagé. Est-ce que tu as des étapes, des choses qui vont arriver pour Atelier FH dont tu voulais parler?
Le mois de février arrive, donc ça va être une période où je vais commencer en fait à penser à la collection de printemps-été, en tout cas la première partie de la collection de printemps-été. Donc, je vais commencer du coup la collecte de chaussures seconde main. Donc, c'est une bonne période pour proposer des chaussures, parce que c'est vrai qu'au mois de janvier, en général, je dis aux gens que pour l'instant, je ne prends pas. Parce que je ne peux pas forcément stocker trop à l'avance. Donc voilà, ça c'est, je dirais, la vie de l'entreprise. Ça va être la période où je vais recollecter, restaurer, faire un photoshoot, etc. Et la collection devra être en ligne début avril. Donc ça c'est pour la partie en e-commerce. Et pour la partie, je dirais, physique, alors du coup, là au mois de février, je vais participer avec d'autres marques de créateurs dans l'upcycling à un événement organisé par un magasin à Paris dans le 11e qui organise le festival de l'upcycling. Et donc ça va être chouette parce que pendant un mois, je vais être dans cette boutique avec des marques qui font des choses hyper sympas aussi en termes d'upcycling. Et moi, je vais y être pendant une semaine. Voilà. Si les gens sont à Paris, on pourra toujours mettre l'adresse aussi. Mais j'essaie, alors après, je sais qu'Instagram, on ne voit pas tout le temps, mais j'essaie de régulièrement, en fait, mettre à jour Instagram, en tout cas poster régulièrement sur ce qui se passe. À Zurich, je suis donc chez The Pink Sheep, qui est un atelier d'upcycling plutôt côté vêtements, qui est un lieu vraiment hyper sympa. Donc j'y étais depuis septembre et je devais arrêter fin décembre, mais j'ai renouvelé au moins jusqu'à fin mars. Donc pour les personnes qui sont à Zurich ou vers Zurich ou qui passent à Zurich, ben, voilà, on peut voir les chaussures, je dirais, là-bas ou demander à les essayer là-bas. A priori, après, sur, je dirais, la partie plus printemps-été, il y aura des pop-up, mais bon, voilà, pour l'instant, c'est en cours. Mais le but, c'est aussi, ouais, c'est vraiment d'avoir ce mix.
J'avais oublié de te demander aussi, est-ce que les gens peuvent s'adresser à toi s'ils ont justement des chaussures encore de bonne qualité
Oui, de bas
qui
sur mon site, en fait, quand tu vas sur mon site, c'est en bas de page, il y a un bouton Sell to Us, effectivement, mon site est en anglais, donc je sais que c'était le compromis pour toutes les langues. Je sais que ce n'est pas forcément sympa quand on parle français ou sympa quand on parle allemand, mais je me suis dit que l'anglais, tout le monde le comprendrait. Et donc, il y a un bouton Sell to Us. A priori, c'est facile, en tout cas, c'est le retour que j'ai. On met une photo, on décrit la chaussure et moi je réponds. Je fais des vidéos quand les gens ont plusieurs chaussures, quand ils préfèrent. Mais sinon, parfois je réponds tout simplement, je prends pas. Il ne faut pas se vexer si je ne prends pas, en fait. Ce n'est pas forcément que la chaussure est de mauvaise qualité, c'est que la chaussure ne va pas correspondre à la collection telle que je l'ai pensée. Parce que je ne peux pas, enfin, c'est pas la promesse, je ne dis pas que je vais prendre toutes les chaussures. J'adorerais, mais ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Donc les gens peuvent s'adresser à moi via Hello à Atelier FH, ou même si les gens remplissent pas le formulaire, parfois ils m'envoient juste un email. Voilà,
Ouais, ok, top. Et puis, mes dernières questions que j'aime bien poser, c'est par rapport à ben, cette aventure entrepreneuriale en général. Qu'est-ce qui te plaît le plus et qu'est-ce qui t'inspire ou te motive pour continuer?
Alors, qu'est-ce qui me plaît le plus? Honnêtement, bah, c'était déjà de m'être formée sur plein d'aspects que je ne connaissais pas, comme le marketing digital. Mais pas que ça. À un moment donné, il faut faire des relations presse. J'en avais jamais fait avant. Il faut faire la commerciale. Je n'avais pas forcément fait ça avant. Donc, c'est vraiment tous les jours, c'est varié. Je ne dis pas que tout est sympa à faire, mais tous les jours, c'est varié et j'apprends tout le temps. Et aussi la partie rencontrer des nouvelles personnes, bah, comme toi, on s'est rencontrés parfois virtuellement, on rencontre les gens que virtuellement de nos jours, ou physiquement, mais du coup, voilà, ça, c'est super enrichissant. Ou même juste parfois, je peux faire des appels vidéo pour des clientes qui vont vendre des chaussures et puis en fait, on va parler de durabilité, de plein de choses. Elles vont poser parfois les mêmes questions que toi. Et moi, ça me fait plaisir de répondre, en fait, parce que je considère que c'est aussi ma mission, en fait, d'essayer d'inspirer, voilà, et pas juste de vendre pour vendre. Et qu'est-ce qui m'inspire et qui me motive? Bah, c'est ça, justement, en fait, c'est continuer à essayer d'éduquer, d'inspirer, que les gens prennent conscience et d'essayer d'avoir un impact, en fait. Voilà, et je réfléchis, enfin, il y avait des choses qui étaient dans mon projet initialement que je n'ai pas forcément développé au début, puisque bah, ça prend du temps et que j'espère pouvoir développer en 2022, mais c'est trop tôt pour en parler parce que pour l'instant il ne s'est rien passé. Et vraiment, donc, toujours cet aspect d'impact en fait.
Bah, du coup, c'est chouette, ça veut dire qu'il faut absolument qu'on se suive pour savoir quels seront ces projets.
Oui, bah, puis il y a une newsletter aussi, voilà, une à deux fois par mois, ça dépend, mais oui.
Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as expliqué, tout ce que tu as partagé.
Merci. Ah oui, ce que je peux dire peut-être, oui. Du coup, bah, après tu vas devoir couper, c'est peut-être dans les projets, et c'est vrai que je l'avais mis dans ma dernière newsletter, j'avais un peu lancé une bouteille à la mer comme ça. Où j'avais dit que moi, il y avait deux choses qui étaient importantes pour moi pour que Atelier FH puisse se développer, avoir un impact. C'est vrai que je n'ai pas encore réfléchi exactement comment, mais je pense que je vais m'associer. Voilà, donc aujourd'hui, c'est une peu là de réflexion. Je n'ai pas une fiche de poste avec des critères très précis. Donc, c'est au fur et à mesure de conversation, mais je le lance comme ça, parce qu'on ne sait jamais, en fait. Voilà.
C'est sûr. OK, bah, merci beaucoup.